Vous écoutez Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contenaire.
RFI Midi suite et fin, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. Après le journal, nous irons aux États-Unis voir comment l'électorat noir se positionne en vue de la présidentielle de novembre, se détourne un peu de Joe Biden. On parlera aussi d'un départ symbolique en Haïti. Citibank quitte le pays. C'était le dernier groupe bancaire international encore présent dans le pays. Et puis l'actualité des Outre-mer. Avec Alex Léveillé, nous irons en Guyane pour parler du succès du vol inaugural d'Ariane 6. Et puis en Martinique, Alex.
Effectivement, où le Covid refait son apparition avec plus de 700 cas répertoriés au mois de juin.
À tout à l'heure. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Et tout de suite donc, c'est le journal. De Charlotte Hydrac, Charlotte, les dirigeants des pays de l'OTAN entrent dans le dur des négociations aujourd'hui. L'Alliance Atlantique qui réaffirme son soutien sans faille à l'Ukraine.
Oui, 75e sommet de l'Alliance Atlantique à Washington. Lors de la cérémonie d'ouverture hier, le président américain l'a assuré. L'Ukraine peut arrêter Poutine, dit-il, et elle le fera. Joe Biden qui s'est présenté en leader, plus solide qu'il y a deux semaines lors de son débat télévisé raté face à Donald Trump. Cette prestation continue de poser question aux États-Unis sur sa capacité à mener la campagne en vue de l'élection de novembre. Et Donald Trump en redemande. Le candidat républicain invite son successeur à un nouveau débat. En meeting hier, il a multiplié les attaques contre son successeur, Lubna Anaki.
Sur un parcours de golf près de Miami, devant plusieurs milliers de partisans, Donald Trump jouait à domicile. Le républicain a fait le show comme à son habitude. Et comme à son habitude, il a commencé par attaquer Joe Biden en évoquant le débat télévisé du 27 juin dernier.
Comme vous le savez, lors de notre récent débat, et en votre honneur, j'ai infligé à Joe Biden la pire défaite de l'histoire des débats présidentiels. C'était tellement humiliant que son propre parti lui demande maintenant d'abandonner la course présidentielle. Après cette seule performance de 90 minutes.
Et tout en se moquant des facultés intellectuelles et physiques de Joe Biden, Donald Trump lui fait une proposition.
Faisons un nouveau débat cette semaine pour que Joe l'endormi puisse prouver au monde qu'il a tout ce qu'il faut pour être président. Mais cette fois, faisons-le d'homme à homme, sans modérateur. Dites-moi juste où et quand.
Le milliardaire assure qu'il n'a jamais été aussi populaire et qu'il remportera une grande victoire le 5 novembre prochain, que ce soit face à Joe Biden ou un autre candidat démocrate. Lubna Anaki, New York, RFI.
Des appels ce mercredi à évacuer Gazaville au nord du territoire palestinien. L'armée israélienne a largué par avion des tracts sur la localité. Elle appelle tous les habitants à quitter les lieux. Les opérations sont très intenses avec bombardements et combats au sol.
En Équateur, le combat de plusieurs collectifs féministes pour la dépénalisation de l'avortement.
Oui, aujourd'hui autorisé uniquement jusqu'à 12 semaines en cas de viol ou de danger pour la santé ou la vie de la mère. Des organisations féministes s'étaient déjà mobilisées il y a quelques mois pour garantir l'accès à l'avortement de toutes les femmes. Et elles reviennent à la charge. Marine Le Bègue, elles viennent de déposer une nouvelle demande devant la Cour constitutionnelle.
Oui, leur objectif, démontrer l'inconstitutionnalité de l'article 149 du Code pénal qui condamne jusqu'à 2 ans de prison celles qui ont recours à l'avortement. Pour cela, les associations de défense des droits des femmes s'appuient sur la Constitution qui garantit le droit des citoyens équatoriens à décider de leur santé et de leur vie reproductive. Alors, l'argument est-il recevable? La Cour constitutionnelle doit encore trancher. Aucun délai n'est fixé. Anna Cristina Vera, avocate et membre du mouvement féministe Justa Libertad.
Cette demande est importante, elle nous permet de dire à la Cour qu'elle doit prendre cette décision en urgence. Parce que pendant ce temps, chaque jour, ce sont des milliers de jeunes filles et de femmes qui subissent des maternités forcées ou qui sont obligées d'avoir recours à des procédures dangereuses pour avorter.
Première mobilisation des organisations féministes avait permis en 2021 de légaliser l'avortement pour les victimes de viol. Les féministes espèrent à présent une réponse rapide de la Cour. En moyenne, 7 femmes avortent clandestinement toutes les heures en Équateur, le plus souvent dans les zones rurales où l'accès aux méthodes contraceptives modernes est plus difficile.
Marine Le Bègue, c'est un retrait à effet immédiat. Microsoft abandonne son siège au conseil d'administration d'OpenAI, le développeur du fameux ChatGPT. Et cela à un moment où les régulateurs américains et européens accentuent leur surveillance du marché de l'intelligence artificielle dominé par une poignée de géants du numérique.
Microsoft qui tente par ailleurs de verdir son bilan carbone.
Le géant américain s'est engagé à un achat record de crédits carbone, au total 500 000 tonnes de CO2 sur 6 ans. Alors au-delà de la quantité, c'est la manière de générer ces crédits qui interpelle. Selon l'entreprise, il s'agit du plus important rachat de crédits réalisé via la technologie de captage direct de carbone dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire, Pauline Glaise ?
Eh bien, alors, le captage de carbone recouvre plusieurs technologies, Charlotte. Soit on récupère le CO2 directement à la sortie de l'usine avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère, soit on extrait le CO2 déjà présent dans l'air pour en diminuer la concentration. C'est de ce dont on parle aujourd'hui. Cette dernière méthode a gagné en popularité auprès des entreprises technologiques. Une tentative pour concrétiser leurs ambitions. Microsoft et Google, par exemple, se sont engagés à la neutralité carbone d'ici 2030. Sauf que le cloud et surtout l'essor de l'intelligence artificielle font plutôt monter leurs émissions en flèche, plus 29% en 3 ans pour Microsoft. Alors le géant américain paie pour compenser ses émissions, en l'occurrence pour que 1.5, filiale d'Occidental Petroleum, retire le carbone dans l'air. Reste que le captage direct est une technologie controversée. Elle fait partie des solutions avalisées par l'ONU, mais certains experts craignent qu'elle ne se substitue aux efforts de réduction des émissions. Et puis la méthode n'en est qu'à ses balbutiements. L'an dernier, l'équivalent de seulement 10 secondes d'émissions mondiales ont été aspirées. Cela dit, plus d'une centaine de projets sont en développement. L'usine sur laquelle Microsoft est en construction.
Pauline Glaise, la politique en France après les législatives, à leur tour, les députés Rassemblement National ont fait leur rentrée à l'Assemblée. Sans surprise, Marine Le Pen a été réélue présidente de son groupe. Après le score décevant du parti dimanche dernier, l'accession du RN au pouvoir n'est que partie remise, dit-elle. Et puis cette information révélée par nos confrères du quotidien Libération, un proche du président Macron, son conseiller officieux Thierry Solaire a reçu à son domicile ces derniers mois les figures du Rassemblement National Marine Le Pen, Jordan Bardella et en présence aussi du ministre des Armées ou encore du président du parti Horizon Édouard Philippe. Cela crée un certain malaise, Victorien Villaume.
Dîner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, quoi de plus normal, se défend en substance sur TF1 Édouard Philippe.
J'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux.
Une position peu étonnante. L'ancien Premier ministre se dit depuis plusieurs années hostile à toute posture morale vis-à-vis du parti d'extrême droite. Et si évidemment le Rassemblement National boit du petit lait, écoutez le député Philippe Ballard.
On est ouvert d'esprit, et visiblement Édouard Philippe est ouvert d'esprit également.
Pour certains, ces dîners dédiabolisent encore davantage le parti d'extrême droite. C'est un mauvais signal, résume sur RMC François Bayrou, le président du parti centriste Modem.
Ça veut dire au fond, on peut imaginer que c'est la même chose et qu'il y ait des rapprochements. Je ne crois pas ça. Non pas que j'ignore les 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National. Moi, je considère qu'il faut les avoir comme interlocuteurs.
Malaise également pour Valérie Pécresse. Quand on partage le pain avec quelqu'un, c'est un peu qu'on est proche, tacle la figure du parti Les Républicains.
Victorien Villaume.
À tout à l'heure, Charlotte Hydrac. Notre auditeur vous retrouve dans 2 heures. Et nous sommes sur le continent américain pour la dernière partie d'RFI Midi.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous parlions avec vous, Charlotte, tout à l'heure dans le journal du sommet de l'OTAN. Occasion pour Joe Biden de montrer qu'il est bien apte à diriger le pays. Lui qui fait l'objet d'appels de plus en plus insistants à renoncer à sa candidature dans son propre camp. Et les sondages ne sont pas bons pour le président sortant. Alors Joe Biden tente de remobiliser sa base, l'électorat qui lui est traditionnellement acquis, comme les Afro-Américains. Il était par exemple dans une église noire à Philadelphie il y a quelques jours. On l'a vu battre la mesure et fredonner du gospel. Mais il n'est pas le seul à courtiser l'électorat noir et les sondages montrent une tendance surprenante aux États-Unis. De plus en plus d'Afro-Américains seraient prêts à voter pour Donald Trump. Notre correspondant David Thompson a pu échanger avec le président de l'ONG Black Voters Matter, qui mobilise les Noirs américains en vue de l'élection. Et il a demandé à Cliff Albright si cette tendance des sondages se confirmait sur le terrain.
Je ne vois pas du tout cette tendance sur le terrain. On constate depuis plusieurs années que les sondages se trompent, surtout lorsqu'il s'agit des électeurs noirs. À chaque élection précédente, en 2022, en 2023, jusqu'en 2020, on nous a dit à un moment que les électeurs noirs allaient se tourner vers Trump et les Républicains, et cela ne s'est jamais produit. En fait, le pourcentage d'électeurs noirs qui a voté pour Trump en 2020 a même été légèrement plus faible qu'en 2016. C'est donc le contraire qui s'est produit.
Alors la campagne Trump a inventé le concept de Blexit, c'est-à-dire Black Exit, pour dire que les Noirs quitteraient massivement le Parti démocrate qu'ils ont toujours soutenu pour voter désormais républicain. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Blexit?
C'est juste une fiction, une histoire inventée. Cela ne s'est pas produit. On ne peut pas imaginer une telle bascule des Noirs en faveur des Républicains alors que leurs politiques sont anti-Noirs. Ils s'attaquent à notre histoire, ils brûlent nos livres, ils s'attaquent à la discrimination positive. Ils se sont même opposés à l'annulation de la dette étudiante par le président Biden, et leur argument juridique devant le tribunal, c'était que c'était discriminatoire parce qu'il y allait avoir trop de Noirs qui en bénéficieraient. On ne peut donc pas avoir toutes ces politiques anti-Noirs et dire ensuite « Oh, nous pensons qu'ils vont se mettre à voter pour nous ». C'est juste impossible.
Et lorsque, dans ses meetings, Donald Trump met en avant son passif judiciaire pour séduire les Noirs sur le thème « Moi aussi, je suis inculpé et victime, comme vous, d'un système judiciaire injuste », qu'est-ce que cela produit comme impact sur la communauté afro-américaine ?
D'abord, c'est raciste, parce que ça donne l'impression que tous les Noirs sont liés à la criminalité. Mais surtout, à l'opposé de la réalité, car au lieu de montrer à quel point il est semblable à nous, ce qu'il montre, en réalité, c'est à quel point il est privilégié. Car soyons clairs, s'il y avait un seul élu noir, même si c'était le président Obama, qui était confronté à 4 procès différents avec toutes ses inculpations, il ne serait certainement pas en train de voyager à travers tout le pays pour faire des discours, qui plus est, des discours qui attaquent les juges et les procureurs. Aucun noir ne peut s'identifier à l'expérience de Donald Trump. Et de suggérer qu'on pourrait simplement, parce qu'on est noir, nous identifier à cette personne parce qu'elle est maintenant condamnée et jugée coupable dans d'autres procès. Cette notion est à la fois raciste et tout simplement stupide, car n'importe quelle personne noire ayant fait ce que Trump a fait serait en prison. Et en plus, lui va pouvoir aller voter, alors que son parti essaie constamment de retirer le droit de vote aux gens qui ont été condamnés. Et donc, encore une fois, les Noirs voient cette hypocrisie. Si nous, on commet un crime, on risque fort de ne plus jamais pouvoir voter. Trump, lui, non seulement il peut commettre un crime et voter ensuite, mais en plus, il peut se présenter à l'élection présidentielle. But you can commit a
crime, and not only can you vote, but you get to run for president. La campagne Trump mise en tout cas sur une démobilisation du vote noir. Avec votre organisation Black Voters Matter, vous essayez justement de permettre à plus d'Afro-Américains de voter. Est-ce que vous craignez que la communauté vote moins pour Biden en 2024 qu'elle ne l'a fait en 2020? Whether or not black voters
come out. La participation électorale des Noirs ne dépend pas seulement de notre énergie, elle est aussi fonction du nombre de barrières imposées au droit de vote. En réalité, lors des dernières élections, la baisse de la participation a été plus forte dans les États qui, par coïncidence, ont adopté les pires lois pour compliquer l'accès au vote des Noirs, à savoir la Floride, le Texas et la Géorgie. C'est exactement l'objectif de ces lois. Et c'est exactement ce que nous combattons en tant que militants en demandant au contraire le renforcement des protections du droit de vote.
Et justement, en 2020, Joe Biden avait promis une grande loi pour protéger le droit de vote des Noirs et une autre pour réformer la police. C'était juste après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd et les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020. Le problème, c'est que ces lois ont été bloquées au Congrès par les Républicains. Est-ce que cela suscite de la déception au sein de l'électorat afro-américain ?
Oui, je crois qu'il y a de la déception, mais cela peut se corriger avec une meilleure communication. Par exemple, sur la réforme de la police et la loi George Floyd, c'est vrai que de nombreuses personnes de notre communauté souhaitent l'avoir adoptée, et elle ne l'a pas été, c'est vrai. Le président n'avait pas de prise là-dessus, mais il contrôle en revanche les directives fédérales, et il a pu interdire ces interventions de la police avec des mandats d'arrêt, sans frapper à la porte, la clé de bras, lors des interpellations. Au niveau fédéral, des poursuites ont été engagées contre ceux qui ont tué les trois personnes pour qui nous avons manifesté durant l'été 2020. George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery. Toutes ces affaires ont fait l'objet de poursuites au niveau fédéral. Donc sur ces questions qui nous ont fait descendre dans la rue pendant des mois, cette administration a tenu ses promesses. Mais ces histoires n'ont pas été suffisamment racontées. À chaque fois qu'on discute avec les électeurs dans la rue, dans nos communautés, on rappelle ces faits. Et les gens qui commençaient par dire « rien n'a été fait » se disent soudain « oh, finalement, des choses ont été faites ». Il faut donc mieux communiquer sur ce bilan. Cette administration a fait des choses qui vont dans le sens du progrès économique. Malgré ce que Trump essaie de dire, le taux de chômage le plus bas chez les Noirs n'a pas été enregistré sous son administration, il l'a été sous l'administration Biden. Cette administration a été en mesure de réduire le coût des médicaments sur ordonnance, en particulier de l'insuline, ce qui a été important pour la communauté noire, car nous avons les taux de diabète les plus élevés. C'est une réalisation importante pour nous. Désormais, les gens n'ont plus à choisir entre se nourrir, payer leur loyer ou leur insuline, parce que maintenant, c'est plafonné. Cette administration a obtenu davantage de résultats, notamment sur le plan législatif, que n'importe quelle autre administration depuis Lyndon Johnson. Certains disent même depuis Roosevelt et son New Deal.
Cliff Albright, le président de l'ONG Black Voters Matter, il répondait à notre correspondant aux États-Unis, l'un de nos correspondants, David Thompson. Donald Trump est donc en campagne pour profiter des doutes qui entourent la candidature de Joe Biden depuis le débat calamiteux d'il y a deux semaines. La polémique n'est pas éteinte aux États-Unis. Vous l'avez lu dans la presse, Harim Lipold.
Les prises de parole, toutes les apparitions en public sont méticuleusement scrutées par les médias. Le New York Times ce matin note que le discours d'ouverture pour le sommet de l'OTAN qui a débuté hier à Washington a été tenu avec, je cite, une voix forte et très peu d'erreurs. Selon Politico, Joe Biden a pour l'instant réussi à faire taire la plupart de ses critiques internes. Il a décidé de poser un ultimatum à ses détracteurs, parler ou se taire. Et pour l'instant, la grande majorité des législateurs démocrates se taisent, souligne Politico.
Lui, en revanche, a décidé de prendre la parole après avoir été étonnamment compréhensif envers Joe Biden après le débat entre les deux candidats. Désastreux donc pour le président. Donald Trump a changé de ton et nettement moins mâché ses mots hier lors d'un meeting en Floride.
They want Crooked Joe out of the race. It's a shame the way they're treating him. But don't feel sorry for him. He's a very bad guy. He weaponized government. Remember that.
Ils veulent que Joe, l'escroc, soit écarté de la course. C'est une honte la façon dont il le traite, mais ne soyez pas désolés pour lui. C'est un très mauvais gars. Il a armé le gouvernement, ne l'oubliez pas. Voilà ce qu'a dit Donald Trump à ses militants. Et il a ajouté, en parlant des démocrates, « Ils mentent au monde entier sur l'état de santé de Biden. Vous voyez son état, vous les voyez essayer frénétiquement de renverser les résultats des primaires de 50 États et d'installer un nouveau candidat à la demande de leurs très riches donateurs. » Donald Trump est même allé plus loin, comme le rappelle la presse, Harim, traitant Joe Biden de corrompu et d'incompétent.
Oui, selon le Miami Herald, Donald Trump s'est moqué de la performance de Joe Biden lors du débat présidentiel du mois dernier. Et selon l'ex-président, le parti démocrate sombre dans le chaos car il n'arrive pas à décider lequel de ses candidats est le plus inapte à être président. Dixit Donald Trump et le candidat républicain a de conclure, peu importe le candidat démocrate désigné, nous battrons n'importe lequel d'entre eux.
Harim, vous restez avec nous, on prend tout de suite la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Go.
Le son des débris de verre sous les pas de Gary Conille et de Rameau Normy, le Premier ministre haïtien de transition, accompagné d'un des conseillers présidents et du chef de la police haïtienne, ont visité hier l'hôpital général de Port-au-Prince, qui a été repris dimanche des mains des gangs qui l'occupaient depuis plusieurs mois.
C'est pas une zone de confrontation, c'est une zone côté monde qui est malade, qui est une petite santé. Monde qui déjà en situation vulnérable.
Une zone de confrontation, une zone de non-droit où la population déjà très vulnérable ne peut pas se rendre, inacceptable, selon Gary Conille, qui voit dans la reconquête de cet hôpital par la police la première étape dans la reprise en main des infrastructures haïtiennes. Cette visite à Rimlipold, elle est aussi à la une du grand quotidien Le Nouvelliste.
Oui, le journal précise que Gary Conille s'y est rendu sous forte escorte policière. Les autorités ont découvert ce qui reste du plus grand centre hospitalier du pays après des mois passés entre les mains des bandits, souligne Le Nouvelliste. Le Premier ministre médecin lui-même n'a pas caché sa surprise devant les restes de l'hôpital, écrit le journal de Port-au-Prince. Il y a des murs et une adresse, mais il n'y a plus d'hôpital fonctionnel.
Autre sujet à lire dans la presse haïtienne, à Rime, la République dominicaine, qui met en place un dispositif militaire très important à la frontière pour prévenir toute incursion des gangs qui essaieraient de fuir Haïti.
Oui, c'est-à-dire dans Alta Presse, qui s'appuie sur des sources dominicaines. Le dispositif militaire a été adopté en réaction à la présence en Haïti des troupes kenyanes de la mission multinationale d'appui à la sécurité qui doit aider la police haïtienne à combattre les gangs. Les autorités militaires dominicaines ont intégré des équipements et des technologies de pointe pour améliorer les tâches opérationnelles dans cette zone frontalière, écrit Alta Presse.
Merci, Achim Lipold. On reste en Haïti pour parler d'un départ marquant. La dernière banque internationale encore présente dans le pays se retire. Citibank renonce et invoque la diminution de son activité, la baisse du nombre de clients. Mais en fait, Nicolas Feldman, les raisons sont bien plus profondes.
Oui, puisque depuis 2018, la crise économique et sécuritaire affecte durement le secteur financier. Pour les banques, investir dans des actifs en Haïti n'est presque plus rentable et même prêter de l'argent aux entreprises et aux particuliers est devenu risqué. Un chiffre le montre, la part des prêts qui ne seront pas remboursés a été multiplié par 3. Dans ce contexte, la Citibank préfère donc se retirer d'Haïti. C'est la fin d'une présence de près d'un demi-siècle, mais surtout un message négatif envoyé au pays et à ses partenaires. Enomi Germain est professeur d'économie à l'Université d'Haïti.
C'est un très mauvais signal pour Haïti sur le plan international. C'est un pays, justement, qui a des difficultés inhérentes et qui n'arrive pas à maintenir les investissements en son sein. La deuxième chose, c'est que c'est un mauvais signal pour le secteur financier interne parce qu'au fait, depuis quelques temps, il y a des rumeurs de faillite bancaire en Haïti qui ne sont pas tout à fait documentées, mais il y a des rumeurs en Haïti. Et quand, dans ce contexte, vous avez une banque étrangère qui laisse le pays, ça laisse croire clairement que, écoutez, les rumeurs sont pratiquement fondées.
L'expert tient pourtant à relativiser puisque la Citibank n'est que la 7e banque commerciale sur les 8 que compte Haïti et elle ne représente que 2% des parts de marché.
Alors, est-ce qu'avec le départ de Citibank, donc dernière banque internationale installée en Haïti, ça va devenir plus compliqué de commercer avec l'étranger ?
Alors non, pas forcément, répond sur ce point Enomi Germain, puisque d'autres banques haïtiennes restent aujourd'hui connectées à l'international.
Si j'achète par exemple une marchandise aux États-Unis d'Amérique, je peux payer via la Unibank. La Unibank me permet de faire ce qu'on appelle une transaction internationale. Donc je fais la transaction internationale, facilement la Sogebank permet de faire ça, etc., etc. Donc là, il n'y aura absolument pas de problème sur ce point, étant donné qu'il y a d'autres banques qui ont des parts de marché beaucoup plus importantes, qui justement continue de faire ses activités. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à des conséquences significatives au niveau du commerce international.
Le retrait de la Citibank s'inscrit pourtant dans un mouvement plus large de départ en février. C'est Finca, spécialisé dans les microcrédits, qui résiliait son contrat avec la Banque de la République d'Haïti après 35 ans dans le pays.
Nicolas Feldman, il est 9h24 en Haïti.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et on vous retrouve à Rimlipold pour feuilleter les journaux du continent. Nous sommes au Venezuela où le ton monte dans la campagne présidentielle.
Oui, lors d'un meeting le week-end dernier, le président sortant et candidat à sa réélection, Nicolas Maduro, a qualifié son adversaire Edmundo González Urrutia de vieux décrépit et l'opposition de corrompu. Nicolas Maduro affûte son artillerie verbale à quelques jours des élections, titre ce matin le journal El Nacional. Et face à ces attaques, Edmundo González Urrutia garde garde son calme. Il a répondu au président en promettant, je cite, de construire un pays où le président ne proférerait pas d'insultes.
Achim Lipol, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Nous sommes à 15 jours des Jeux Olympiques de Paris et les athlètes commencent à arriver dans la capitale française. Aujourd'hui, une partie de l'équipe des États-Unis prend ses quartiers dans le nord de Paris, dans un complexe dédié au sport de haut niveau, le Centre Atletica d'Aubonne. La délégation américaine l'a entièrement privatisé pour 2 mois et demi et pour y installer entre 400 et 800 athlètes. En fait, ce sont les plus susceptibles de remporter des médailles qui viendront s'entraîner dans ce centre d'exception, aux côtés de 250 membres de l'encadrement mobilisés jour et nuit durant toute la durée des Jeux. Je vous propose d'écouter le directeur général de ce centre, Atletica, Arnaud Zumaglia, responsable de l'accueil des Américains jusque dans les moindres détails.
On a eu la chance d'être invité aux Jeux panaméricains à Santiago du Chili, justement pour voir comment la délégation américaine vivait dans des Jeux olympiques. Ça n'a pas la même dimension que des Jeux olympiques de ceux de Paris 2024, mais ça nous permet de voir justement comment les gens vivent dans ces Jeux-là. Et on a découvert cette partie, je dirais, plus conviviale. Donc dans chacune des salles où les Américains sont présents, qu'ils fassent de la restauration, de la logistique ou autre, ils ont tous des petites médailles en papier qu'ils découpent et qu'ils affichent au tableau au fur et à mesure que leurs athlètes gagnent des médailles. Donc ils savent tous en temps réel combien ils ont ramené de médailles d'or, de médailles de bronze, de médailles d'argent. Ils font très attention à célébrer les anniversaires, les naissances, les événements de famille. Donc au-delà du boulot, c'est une vie de famille, entre guillemets, professionnelle qui se met en œuvre. Et ça, c'est pas forcément une dimension qui aurait été instinctive chez nous. C'est-à-dire que nous, on aurait abordé très stricto sensu le côté professionnel, la performance professionnelle, et on en aurait peut-être oublié le côté vie, nature, humain de l'événement.
Alors concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que là, on va s'efforcer de mettre dans les couloirs ou dans les espaces de convivialité des petits tableaux, d'avoir des gens qui vont tenir à jour le compteur des médailles. On va prendre la liste des gens qui vont venir être hébergés chez nous avec leur date d'anniversaire et on va essayer de célébrer ces moments-là. On vivra à l'heure américaine pendant 2 mois et demi et on va s'inclure, on va créer entre guillemets une famille avec eux, une famille professionnelle avec eux pour vivre cet événement de l'intérieur et faire partie de leur équipe, quoi.
Des propos recueillis par Marie Casadebé.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer avec vous, Alex Léveillé. Hier, à 6h, heure de Kourou, en Guyane, la toute première fusée de la génération 6 d'Ariane s'était lancée du centre spatial guyanais.
Et oui, ce vol inaugural s'est bien déroulé dans l'ensemble, malgré une anomalie survenue à la fin de la mission. Les explications de Martin Sillon, président d'Ariane Group.
Aujourd'hui, voir ce vol qui se déroule pendant toute la première phase de vol, dans des conditions parfaites, tout nominal, une chronologie où il ne s'est rien passé. Ça a été un moment vraiment remarquable. Notre objectif principal, c'était d'atteindre 66 minutes, de larguer les premières charges utiles, et tout s'est passé de façon parfaitement nominale. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a vu une anomalie dans la deuxième phase de vol. L'APU, c'est un dispositif de propulsion auxiliaire qui a sur l'étage supérieur, c'est une innovation qui a été faite sur Ariane 6. Il a très bien fonctionné, l'APU, pendant toute la première phase de vol, et il a permis de faire la mission jusqu'à 66 minutes sans problème. Ensuite, on est arrivé dans une phase de démonstration technologique où l'étage restait en microgravité pendant faisant la moitié du tour de la Terre. Et ensuite, on a voulu le redémarrer. Quand on l'a redémarré, il a démarré et il s'est arrêté. Pourquoi s'est-il arrêté? Je ne sais pas encore. On va attendre d'avoir les données, on les exploitera et on informera.
Martin Sillon, président d'Ariane Group, était au micro de Ludmila Lewis de Guyane. La première et la prochaine Ariane 6 est prévue pour le mois de décembre 2024. Une trentaine de clients figurent déjà sur la liste du lanceur européen. Direction la Martinique maintenant avec ce chiffre. Plus de 700 cas de Covid fin juin dernier. L'ARS appelle à la prudence, le respect des gestes barrières et se protéger. Xavier Chevalier de Martinique, la première.
Vous les avez peut-être remarqués, même s'il reste pour l'heure une minorité, de plus en plus de personnes portent de nouveau un masque sur la bouche et le nez. La peur du Covid est toujours forte et présente.
Oui, ça m'inquiète. En fait, j'ai eu le Covid il y a 2 semaines, donc ouais, ça me fait peur.
Ça fait peur? Mais moi, j'ai été faire mon test. Dimanche, j'ai été voir si c'était pas ça. J'avais appliqué les gestes barrières.
Ben oui, c'est effrayant. J'ai peur que ça redevienne comme avant quand même. On devrait tous reprendre les gestes barrières quand même.
Depuis 5 semaines, les indicateurs de surveillance sanitaire montrent une augmentation des infections liées au Covid-19 en Martinique, avec 770 nouveaux cas recensés du 24 au 30 juin contre 660 sur les semaines antérieures. Julien Thiria, directeur de la santé publique de l'ARS.
On suit de près les indicateurs qui augmentent. Aujourd'hui, il n'y a pas une traduction, si vous voulez, au niveau hospitalier. On sait que c'est un variant qui est très contagieux, ça c'est certain. Mais à ce jour, on n'observe pas de forme grave.
En Martinique, c'est le variant JN1 qui est majoritaire. Les pouvoirs publics lancent un appel à la vigilance et à la prudence. L'ARS rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et lance un nouvel appel à la vaccination.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous.
Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une très bonne journée sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Installé à Marseille où je l'ai rencontré, l'écrivain norvégien Aslak Nord est l'auteur d'une saga familiale dont le succès est mondial. Après Le cimetière de la mer, il publie Les héritiers de l'Arctique où l'on retrouve le clan des Falques qui se déchire sur fond de succession, un grand roman d'été.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi à partir de 13h30 TU.
RFI.